Dans mon pays, les ânes savent lire, figurez-vous.
Stevenson et Pochon s'en vont dans les Cévennes, mais le point de vue de l'âne.
J'approuve tout à fait le choix de Stevenson. C'est un âne qu'il lui fallait, d'ailleurs la suite l'a prouvé. Un âne est beaucoup plus adapté aux chemins de campagne et aux portages de randonnée. Déjà parce qu'il a le dos moins long que le cheval, il a une vertèbre en moins, ce qui fait qu'il peut porter, par rapport à sa taille et à son poids, une charge beaucoup plus lourde qu'un cheval. En plus, il a des petits sabots et il a le pied très sûr.
Christian Brochier, un ânier des temps contemporains. Du Monastier, en Haute-Loire, jusqu'à Saint-Jean, dans le Gard, en passant par Langogne, Notre-Dame-des-Neiges, le pont de Montvert. Le voyage pédestre que fit Stevenson est imité chaque année par des milliers de randonneurs. Il arrive que certains les plus précautionneux se fassent déposer leurs bagages par mail postal à chaque étape. Les plus scrupuleux l'entreprennent, à l'exemple de l'écrivain, en compagnie d'un âne. La formule est économique. D'ailleurs, si Stevenson s'est enfoncé dans les Cévennes, c'est qu'il n'avait pas assez d'argent pour suivre en Californie la femme qu'il aimait. En 2006, France Inter considéra donc avec intérêt la proposition que lui fit Hervé Pochon, ici présent. Bonjour Hervé.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Cette proposition faisait preuve des mêmes vertus d'économie écossaise qui animait en 1878 l'écrivain. Combien pour la location de l'âne ?
Je crois que la location a été gracieusement offerte par l'ânier, il n'a juste facturé que le transport.
12 jours de marche et 10 séquences d'une heure de radio furent ensuite diffusées au long de l'été. Le retour sur investissement était assez satisfaisant.
Ah, je pense que France Inter n'a pas à se plaindre.
Nous suivrons donc le parcours de 2006 d'Hervé Pochon et puis celui de 1878 et tout cela sous le regard d'Éric Baratet. Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'historien du point de vue animal, avec un L majuscule. Maintenant, vous avez fait école, presque. Hein. Et vous avez tenté une expérience étrange, là, aux éditions du Seuil, un livre.
De biographie animale, pour essayer de restituer des vies et voir ce que ces animaux ont vécu lors d'événements historiques ou lors de marches, par exemple, comme celle de Modestine avec Stevenson.
Donc une dizaine de biographies, et Modestine est au premier plan. Alors, Stevenson et Pochon, ce sont des personnes fort intéressantes, dirait Éric Baratet, parfaitement individualisées, mais leurs ânes méritent aussi l'intérêt. Ils ne sont pas de simples représentants d'une espèce, espèce asine. D'abord, ce sont des ânesses, des personnes du sexe, comme on disait en 1878. Elles ont un nom, une expérience qui leur est propre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Vous pouvez raconter la première de vos 10 séquences. On vous en avait commandé 9, Hervé.
Effectivement, quand je suis parti sur le chemin de Stevenson, on m'a dit, ben voilà, il y a 9 week-ends, il y a 9 samedis, rapporte-nous 9 émissions. Et puis de retour, on m'a dit, ah, finalement, on a changé, la grille d'été va avoir un week-end de plus, donc ça serait bien que tu aies 10 émissions.
Alors comment avez-vous, alors que vous n'aviez pas préparé la première dans cette perspective, comment l'avez-vous constituée?
Ben, d'abord, quand on fait du reportage, on fait toujours plus que ce qu'il n'en faut, donc j'avais suffisamment de matière, mais... J'avais quand même un petit souci de, puisque tout était enregistré dans les conditions du direct, si je puis dire, donc j'ai rien refait en studio, mais il me manquait quand même le lancement de cette nouvelle émission et je dois dire que j'ai compensé le bruit du torrent au fond de la vallée par un vague bruit lointain du périphérique à 5 heures du matin d'une terrasse de banlieue et ça faisait à peu près l'affaire.
Et c'était censé peut-être figurer la rencontre du colporteur, le père Adam, qui va vendre à Stevenson son âne ou son ânesse. C'était censé figurer le point de départ de notre équipée.
Il n'y en a pas une plus jolie dans tout le canton. Et gentille, obéissante et solide. Comment c'est que vous allez l'appeler ?
Modestine.
Ah, Modestine.
Je vais vous le donner, moi, l'homme qui fait marcher ces bestioles-là. Pendant que vous tapez dessus, vous criez « Prrr, prrr !»
ça c'est très important. L'âne est un individu qui parle. Alors ça c'est du vrouitement, vous savez faire le vrouitement?
Bah, quand il l'écrit, Stevenson, il écrit prout, hein. Il écrit, il m'a appris, en parlant de son ânier, finalement il m'a appris le véritable cri ou le mot maçonnique des âniers, prout. Tout le temps, il me regarda d'un air sardonique et comique, gênant à supporter, et il se moqua de ma manière de mener un baudet.
Brère n'est appliqué aux ânes, Éric Baratek, que depuis le XVIIe siècle. Avant, quand un homme criait, en ancien et en moyen français, on disait qu'il braillait.
Oui, et en fait, Modestine ne braille pas tellement. Hein. Il n'y a qu'un moment, lorsqu'elle refuse d'avancer, qu'elle se met à braire. Et Stevenson, au début, croyait qu'elle était plutôt muette. Et elle s'est mise à braire vraiment dans un moment de détresse. Ouais.
Mais Modestine, elle, c'est important, l'individualisation du sexe.
Tout à fait. Alors, évidemment, et Stevenson voit très bien les particularités de Modestine. D'ailleurs, il la nomme Modestine parce qu'il lui trouve un air un peu de quaker, comme il dit, un air un peu modéré, prude.
Comment on dirait aujourd'hui, c'est pas tellement genré. Vous aviez une jeune fille, enfin une adolescente de 12 ans d'âge peut-être, et qui avait un nom. Vous ne vous êtes pas permis et envie de lui donner un nom.
Ah non, j'ai respecté le nom que m'a donné, transmis l'ânier, et son nom c'était Sardane, qui est une danse. Donc je me suis dit que ça présager d'une balade plutôt sympathique. J'ai pas eu tort d'ailleurs parce que ça s'est très bien passé. Et je crois que je lui avais dit, si vous aviez une ânesse, je préférerais une ânesse pour rester fidèle à Stevenson qui avait sa Modestine. Et donc moi j'ai eu ma Sardane.
Alors le chemin de Stevenson est devenu grosso modo le GR 70, enfin grosso modo, hein.
Oui, très grosso plutôt que modo, et parce qu'une bonne partie des chemins ont été maintenant goudronnés. C'est, en fait, Stevenson empruntait souvent les routes de l'époque, donc elles ont été goudronnées, et le chemin actuel longe à plus ou moins grande distance l'itinéraire originel.
Bon, les routes, même en Lozère, sont goudronnées, et la fourniture d'ânes s'est professionnalisée. Voici les recommandations que vous a faites Christian Brochier, votre ânier qui a refusé un prix de location par journée.
Pour se laver, comme ses ancêtres sont de pays de steppe semi-désertique, elle a pour habitude de se rouler par terre.
Ouais.
Hein, comme elle n'a pas de doigts non plus pour se gratter, ça lui sert à se gratter et à se nettoyer, à se protéger contre les parasites, les insectes, etc. Donc, quand on lui met un bas sur le dos qui va toute la journée frotter sur ses flancs, hein, les sacs sur les flancs, les patins du bas sur le dos, les sangles sur le poitrail et sur la croupe, également sous le ventre, tous ces endroits-là, s'il y a de la poussière, et en particulier des petits cailloux, des petits bouts de brins d'herbe piquants, etc., ça va lui provoquer des blessures. Donc, il faut la brosser avant de lui mettre le harnachement sur le dos. On y va de bon cœur. Les ânes ont la peau très dure. Faut pas avoir peur de lui faire mal. Au contraire, ça lui fait du bien de lui gratter le dos.
Les ânes ont la peau très dure.
Oui, mais je dois dire que là, j'étais très concentré parce que pour moi, il y avait un véritable enjeu. Là. Si j'arrivais, il fallait que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, sinon je n'avais pas mon émission. Et il ne fallait pas que l'âne se blesse. J'étais très attentif à tous les conseils qu'il pouvait me donner. Et vraiment, j'ai tous les matins respecté scrupuleusement les conseils de toilette.
Stevenson était-il si attentif aux souffrances, alors que vous décrivez par le menu?
C'est vrai, mais Stevenson est partagé. En fait, on sent très bien à la fois un intérêt un peu compassionnel d'origine anglaise, et en même temps il écoute quand même ce que lui disent les paysans de l'époque et de la région, qui sont quand même très durs avec les ânes. Hein. On ne lui apprend pas, par exemple, à frotter son âne le matin.
Parce que les paysans disent qu'il faut taper, quoi.
Les paysans disent qu'il faut taper. Le père Adam est connu au monastier pour avoir bien molesté Modestine. et on les loge un peu n'importe comment, on les nourrit peu, et la souffrance, elle n'est pas recherchée, mais à partir du moment où l'âne qui souffre a plutôt tendance à se replier sur lui, c'est pas du tout comme le cheval qui s'exprime. On a l'impression, finalement, l'âne ne souffre pas trop et qu'on peut y aller
Donc
franchement.
Donc vous avez essayé de restituer en fonction de la pente. Vous n'avez pas fait le chemin, vous, comme Hervé.
Non, je l'ai fait sur la carte, millimètre par millimètre.
Avec la loupe pour mesurer la pente, exactement. 7%, 8%, 10%. Vous l'avez fait.
Moi, j'ai pas regardé les pourcentages, je les ai traversés, si je puis dire.
Alors, les pourcentages, pour une ânesse qui était habituée à tirer la charrette d'un colporteur qui marchait lentement, c'est très difficile. C'est une souffrance parce que la charge n'est pas la même que celle à laquelle elle est habituée.
Bien sûr, c'est un changement de monde. Alors déjà, il faut voir que Modestine, c'est un tout petit âne. Ce sont les ânes de l'époque, c'est-à-dire ils font un mètre au garrot à peu près. Et, Stevenson le dit, elle a la taille d'un chien. Et les traités...
Ah ouais, non, moi j'aurais... La mienne, j'aurais pas dit qu'elle avait la taille d'un
voilà,
chien.
Voilà, c'est très
mais
différent.
Mais je pense qu'il exagère un peu, ne croyez
non,
pas
non,
que...
Non, on retrouve ça dans les traités d'élevage des ânes du 19e siècle. Ah ouais. Les races du Massif central sont reconnues pour leur petite taille, parce qu'on leur donne très peu à manger, on les nourrit peu, et puis on les fait travailler quand même assez bien. Il y a manifestement des aspects de rachitisme, à mon avis. Hein. Ah ouais. Et donc, elle est habituée à tirer une charrette, et ça aussi, pas un animal qui tire une charrette, les chevaux, c'est pareil. Passer d'un coup à porter un bas, ça les transforme complètement. Et elle n'est pas habituée à la vitesse, évidemment, parce que le péradon, il va d'une ferme à l'autre, mais enfin, il discute dans les fermes, il tape la coinche et il choque le verre.
Vous avez le pas de Stevenson.
Ah oui, moi j'ai
parce dire qu'il faut faire l'émission.
Moi je dois dire que la Sardane m'a ralenti. Si j'avais pas eu l'âne, je serais allé plus vite parce que
c'est exactement Stevenson, c'est ça. Hein, il veut aller vite et Modestine est derrière et elle n'arrive pas à suivre.
Et vous n'avez pas subi le mauvais temps parce qu'il est parti à une saison difficile dans les Cévennes. Stevenson, il est parti en septembre-octobre. Pluie.
Oui, alors, et le froid, surtout le vent du nord très froid. Hein, pendant 3-4 jours, il subit ça. J'ai recueilli tous les indices donnés par Stevenson, à la fois dans le voyage et puis dans le journal, puisqu'il écrit d'abord un journal et il fera le voyage à partir du journal. Et il y a des informations qui sont dans l'un et pas dans l'autre, donc il faut bien avoir les deux. Tout ça, j'ai croisé avec les cartes topographiques qui m'ont permis de voir les pentes, etc. Avec les guides géographiques de l'époque, pour voir tout ce qui était végétation, activité rurale, et puis donc les indications de météo, et avec ce qu'on sait actuellement d'éthologie asine, si on peut dire. Et du coup, on arrive à reconstituer, évidemment, lorsque Stevenson dit qu'il fait tel temps, qu'il n'y a aucun signe, pas d'oiseaux, rien dans la vallée qu'il traverse, pas de bruit. Bon, on peut évidemment reconstituer du côté de l'animal ce qui se passe aussi.
Vous voyez, c'est mieux qu'en vrai, Hervé. Et c'est ainsi qu'hébété, désespéré, épuisé, elle ne voit même pas les raccourcis.
Modestine! Je crois deviner que tu ne veux pas prendre le raccourci. C'est ça? Pourquoi? Comment comprendre tes raisons si elles sont stupides? Ah. Modestine, vous êtes une idiote. Je vais vous traiter comme une idiote.
J'ai honte de le dire. Frapper deux fois cette misérable pécheresse sur le museau. Ce fut pitié de la voir relever la tête, les yeux fermés, dans l'attente d'un autre coup. Je fus prêt de pleurer, mais je fis quelque chose de plus intelligent en m'asseyant carrément sur le bord de la route pour réfléchir à ma situation sous l'influence réconfortante d'un peu de tabac et d'une rasade de cognac. Modestine mâchait un peu de son pain noir avec un air de contrition hypocrite.
Un air de contrition hypocrite.
Alors ça, c'est sa lecture de la position de l'âne qui vit justement repliée. Alors, cette idée qu'elle ne veut pas prendre, elle ne veut pas suivre le chemin, on le voit très bien dans la description. On voit très bien comment, à partir du troisième jour, elle est tellement fatiguée et elle a froid que le chemin va lui servir de bande, finalement. Elle a la tête baissée, le cheval lui sert de bande, elle sait qu'il faut suivre. Et puis, à un moment, ils arrivent à un endroit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de chemin. Et là, elle sait plus ce qu'il faut faire. Donc, elle se met à divaguer. Et lui, comme il se tient derrière pour la frapper et la faire avancer, il n'a pas le temps de la rectifier lorsqu'elle part à droite ou à gauche. Ce qui fait qu'ils se mettent tous les deux à zigzaguer sans arrêt, et puis ils se perdent dans un bois où ça dure plus de 2 heures. Et c'est là où justement, ils trouvent qu'elle est totalement stupide.
Alors, stupidité, intelligence, question que vous vous êtes posée, bien sûr.
Ah bah Hervé. Oui, ouais, on a tellement parlé des âneries que je me suis dit, soyons vigilants. Non, je dois dire que mon ânier me disait, il trouvait l'âne plus intelligent que le cheval. Moi, à passer 10 jours comme ça avec elle, je l'ai trouvée effectivement très intelligente. Il fallait juste que je comprenne certaines choses. Il y a un moment, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait pas avancer. C'était parce qu'il y avait de l'eau et elle avait peur du ruisseau. Alors, et après, une fois que j'ai aussi compris qu'il fallait jamais la regarder, je sais pas si c'est sa susceptibilité. En tout cas, maintenant, moi, je faisais l'inverse de Stevenson. Je marchais devant et je la traîner derrière moi sans la regarder, un peu comme un chien. Et là, je dois dire qu'elle allait à son pas, et donc je m'adaptais. Et elle a été très respectueuse.
Mais je reviens à cette idée, l'âne est-il plus intelligent, plus stupide que le cheval? Voilà ce qu'un de vos interlocuteurs vous a déclaré. Alors c'est un interlocuteur qui a de l'expérience.
Autant un cheval est con, autant un âne est d'une rare intelligence, monsieur. Mais monsieur, j'ai eu la chance de faire la guerre d'Algérie et j'ai vu les ânes, l'intelligence qu'il y avait, monsieur, dans le Maghreb, dans le Constantinois. Ils connaissent leur maître comme des chiens. Ils suivent, ils leur disent bonjour. C'est un animal d'une intelligence exceptionnelle, l'âne. Méconnu, on dit bête comme un âne, c'est l'homme qui est bête.
Mais alors peut-être faut-il individualiser, dirait Eric Baratet, c'est l'âne maghrébin pendant la guerre d'Algérie, c'est quand même une chance à vivre, qui serait plus intelligent. Ça vous énerve, vous, les raisonnements en termes d'espèces?
Alors, il faut différencier les espèces et puis il faut individualiser à l'intérieur des espèces. Alors, sa remarque n'est pas fausse, on sait très bien, il y a eu des travaux là-dessus, que les chevaux occidentaux importés en Algérie ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter. Et pouvaient effectivement apparaître beaucoup moins adaptés, beaucoup moins judicieux que les ânes locaux. Et inversement, lorsque pendant la Première Guerre mondiale en France, on importe beaucoup d'ânes d'Algérie pour pouvoir travailler dans les tranchées, bah là, les poilus, au contraire, ont beaucoup de mal à s'adapter à ces ânes-là parce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc là, plutôt, ils ont plutôt l'impression que l'âne est bête.
Alors, les coups sont-ils nécessaire?
Alors, moi, je me suis vraiment fait violence pour ne pas taper l'âne quand elle n'avançait pas, parce que même si radiophoniquement ça pouvait être intéressant de l'utiliser, oui. Je peux pas taper l'âne. C'est pas...
Tandis que Stevenson disait, moi, je vous assure que le bâton n'a pas chômé. Je crois bien que chaque pas de Modestine a dû me coûter 2 coups bien administrés.
Oui, et on voit très bien d'ailleurs dans le journal qu'au début, Stevenson n'ose pas trop taper. Hein. C'est son aspect britannique. Et en fait, ce sont les conseils des habitants qui lui disent « Non, il faut y aller ». Et le premier jour, au bout d'un moment, il se rend compte qu'elle est fatiguée. Donc, il fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il s'adapte. Stevenson s'adapte au pas de Modestine. Et il rencontre un paysan qui se moque de lui. Qui lui dit « Mais si vous voulez aller vite, il faut y aller ». Franco. Et alors, de rage, Stevenson a l'impression qu'il s'est fait berner par Modestine et il se met à taper. Et le lendemain, on lui fournit même un aiguillon pour taper au bon endroit et toujours au bon endroit sur la croupe pour faire bien saigner, faire bien souffrir. Et Clan finalement avance pour ne pas avoir à souffrir en recevant les coups.
Mais Stevenson, est-ce que c'est le côté féminin de Modestine, lui trouve une âme, en revanche?
Mais il est quand même sans arrêt, il est tiraillé entre cette approche plutôt sentimentale, vraiment britannique, et qu'il va accentuer dans le voyage. Parce que justement, il veut vendre ce livre à un lectorat britannique. S'il avait dit exactement ce qu'il avait fait à Modestine, il y aurait eu sans doute scandale déjà à l'époque. Hein. Donc il y a plein de choses qu'il va enlever.
Tandis que vous racontiez des histoires d'hommes aux auditeurs de France Inter, vous racontiez l'histoire des camisards, par exemple.
Ah bah oui, c'était un des arguments pour vendre, si je puis dire, ce projet d'émission à France Inter. C'était de dire que c'était pas... Je vous le dis tout de suite, d'ailleurs, la première fois que j'en ai parlé, on m'a dit « Non mais c'est quoi l'intérêt d'aller marcher avec un âne ?» Alors j'ai dit, non, mais c'est Stevenson, il l'a fait, et c'est le pays où il y a la bête du Gévaudan, il y a les Camisards, il y a...
Les moines de Notre-Dame-des-Neiges.
Les moines de Notre-Dame-des-Neiges. Enfin, il y a pas mal de choses historiques qui sont passées, qu'on pouvait un peu évoquer grâce au livre de Stevenson. Et donc j'ai réussi à...
Dites-moi, Stevenson fait attention au lectorat britannique, vous faites attention à la direction de France Inter, je comprends très bien Hervé Pochon, mais aussi à l'auditeur de France Inter. Si vous aviez donné des coups systématiquement, vous croyez que ça aurait été si radiophonique que ça, à terme?
Enfin oui, au niveau des réactions des auditeurs, elles auraient été très négatives. J'aurais eu des problèmes.
Mais la barrière est ouverte. Qui sait? Il y a des randonneurs qui ont dû passer et qui n'ont pas refermé la barrière. Et je ne vois pas Sardane. Sardane! Sardane! À mon avis, elle a dû suivre les randonneurs qui sont partis avant moi, là. Et puis j'espère qu'elle est à la barrière, là-haut, quoi. Ah, ça va pas, ça. La barrière, elle est ouverte de ce côté-là. Et je retrouve plus l'âne.
Sardane!
Comment ça se fait que les gens, ils referment pas les barrières?
Et pourquoi la barrière, elle est pas fermée? Il faut que je monte plus haut!
Bon, apparemment, elle a été repérée par des randonneurs. Donc... Ah, la voilà!
Sardane! Sardane!
Ah, elle a levé la tête. Viens là! Eh ben alors, qu'est-ce que t'es allé faire? Tu m'as fait peur!
Ça, c'est vrai qu'elle m'a fait peur, parce que... Toujours pareil, quoi. Hein. Moi, si j'ai perdu l'âne, j'ai plus d'émission. Et puis, en plus, tous les jours, j'avais à peu près 10 heures de marche, quoi. Et donc, le temps que j'ai passé à chercher ma Sardane, ça allait retarder d'autant mon arrivée le soir. Donc, j'étais un peu inquiet.
Et elle savait tout ça, Sardane. Vous pouvez vous mettre, Éric Baratet, dans la tête de Sardane qui est en haut du pré, qui fait semblant de la lever la tête au bout d'un moment, mais qui n'en pense pas moins depuis 10 minutes ou un quart d'heure, parce qu'elle a observé, bien sûr, le pauvre Hervé Pochon.
Oui, les ânes
en détresse.
Les ânes observent très bien les hommes, maintenant, on le sait. Hein. Ils savent évidemment jouer avec nous, ils savent s'ajuster.
Mais est-ce que vous croyez qu'elle elle m'entendait l'appeler, par exemple?
Ah ben, bien sûr. Donc, simplement, elle n'avait pas forcément envie de bouger, ou l'attrait de l'herbe était plus importante que votre appel. Et puis, prendre un petit peu plus de repos. On le voit bien aussi chez Modestine, les essais d'ajustement, les essais entre les deux. C'est d'ailleurs sur ce jeu-là que les paysans fondent l'idée qu'il faut taper fort, faut pas se laisser avoir par l'âne. Et en fait, nous, maintenant, on est sur un autre diapason, comme vous l'avez dit. On est plutôt sur essayer de se comprendre et de comprendre l'âne et de s'adapter à l'âne. À l'époque, c'est plutôt, il faut que l'âne s'adapte à l'homme.
Mais comment vous vous mettez dans la tête de Sardane?
Eh ben, je ne l'invente pas. Hein. En fait, j'ai lu auparavant sur la littérature éthologique sur les ânes, hein, qui est la littérature actuelle, sur ce que disent les zootechniciens, par exemple, au XIXe siècle, parce qu'à l'époque, on était habitué à l'élevage des ânes. Donc, il y avait plein d'observations anecdotiques que maintenant, on considère comme des anecdotes, un peu dévalorisées. Mais en fait, on arrive à voir les réactions de l'âne. L'épisode le plus drôle, c'est quand même lorsque Modestine arrive à Notre-Dame-des-Neiges. Avec Stevenson, d'habitude... D'habitude, elle veut à tout prix et le plus vite possible rentrer dans les fermes parce qu'elle sent l'écurie, comme on dit. Là, elle ne veut pas rentrer. Et alors, Stevenson est obligé de la pousser et il est même ravi parce qu'il a l'impression qu'elle ne veut pas rentrer dans un monastère catholique. Et il est content, elle a l'impression qu'elle fait preuve...
Il est protestant.
Il est protestant, oui. Et elle fait preuve d'un anti-catholicisme primaire. En réalité, on sait par le temps qu'il décrit que devant l'entrée, c'est un immense mur, très exposé au soleil, donc très blanc, et il veut la faire entrer par une porte très noire. Et l'âne, comme beaucoup d'animaux, ne voit pas cette porte, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il a l'impression qu'on veut la précipiter contre un obstacle, donc il résiste. Et en plus, comme les écuries sont loin, ne sont pas à la porte à Notre-Dame des Neiges, ben elle n'a pas senti l'odeur, donc elle n'a pas voulu. Et on voit bien là les différences d'interprétation, ce qui permet de complexifier l'analyse et puis de s'amuser.
Elle en a vu de toutes les couleurs, la pauvre Modestine, quand elle arrive harassé à Saint-Jean-du-Gard, au pied de l'horloge, où elle va être vendue à un prix moindre, deux fois moindre que celui qu'elle a coûté deux semaines auparavant.
Modestine et moi eûmes notre dernier repas ensemble. Moi assis sur un tas de pierres, elle debout sous le clair de lune et mangeant avec distinction du pain dans ma main. De cette manière, la pauvre bête mangeait d'un meilleur cœur, car elle avait une sorte d'affection pour moi, affection que j'allais bientôt trahir.
À Saint-Jean-du-Gard, en effet, Stevenson vendit Modestine, bar compris, pour la somme de 35 francs. Puis il monta dans la diligence à destination d'Alais.
Dites-moi, on va savoir grâce à vous la vérité, enfin, sur les adieux de Stevenson et de Modestine. Ça ne s'est pas passé comme ça, vraiment.
Non, il a été très content de la vendre et le plus vite possible, et c'est pour ça qu'il brade le prix. Hein. Il veut s'en débarrasser. Et par contre, alors ça, il le dit très bien dans le journal, et il part très gaiement. Par contre, lorsqu'il écrit « Voyage », justement, il réécrit la fin et il dit que dans la diligence, il a une larme pour Modestine, alors qu'en fait, il n'y pense plus du tout.
Et puis, il fait ça pour que son livre se vende mieux.
Évidemment, ça correspond au lectorat qui va lire ça. De la même manière qu'il enlève, lorsqu'il arrive à Saint-Jean-du-Gard, le palefrenier lui dit que Modestine ne peut plus avancer et il déclare qu'il faut deux mois de repos. Dans le voyage, il transforme les deux mois en deux jours, hein, pour minimiser évidemment l'état de Modestine.
Et si vous avez fait des adieux émus à Sardane, est-ce que c'était pour attirer l'attention, l'affection de l'auditeur de France Inter ?
Et voilà Sardane, c'est ici qu'on va se quitter, devant la place de l'horloge de Saint-Jean-du-Gard, où Robert Louis Stevenson a vendu Modestine quand il est arrivé en 1878. Il l'a vendu 35 francs, il l'avait acheté 65 francs avec un verre de gnôle. Toi, je te vends pas, je te rends à ton ânier. Je te fais un gros bisou.
Tu veux pas, pourquoi tu baisses la tête ?
Voilà, je te fais un bisou.
On a été obligé de redoubler Valérie Aestaray, notre réalisatrice, et moi, le bisou. Parce qu'en fait, il n'y en avait qu'un. C'était pas si affectueux que ça.
Non, c'était bien, j'étais très soulagé, moi, comme, encore une fois, j'étais arrivé au bout de mon chemin, et j'avais, je pense, suffisamment de matière pour faire mes émissions, et...
Ah bah non, vraiment, vous êtes très déterminé par cette unique question.
Ah bah oui, c'était... Mais c'est un travail, hein. Parce que comme Stevenson, il a fait son livre, moi j'ai fait mon émission.
Il est vrai que le régime que vous faisiez subir la direction de France Inter était un régime esclavagiste, parce que tirer une heure de chaque jour, en marchant, en se malaxant les pieds dans l'eau froide le soir, en dérochant, c'est-à-dire en réécoutant tout ce qu'on a enregistré, c'est énorme.
Et tout seul,
hein? Tout seul, bah oui. Biographie animale aux éditions du Seuil d'Éric Baratet. Merci. Et merci aussi à Hervé Pochon, qu'on retrouve cette rentrée sur France Inter, bien sûr, et en fin de semaine. David Fenderman à la technique, Valérie Aestaray à la réalisation, la préparation de la marche de l'histoire, Léa Jussot et Franck Olivard.